Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de La Rage du Peuple. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir bien sûr un tour de l'actualité qui va être fait. Puis par la suite, on va pouvoir avoir une entrevue Émilie Breton qui va nous parler de la Sexta et d'une exposition photo qui traite de la révolte indigène du Chiapas au Mexique. Et on va faire un bref retour aussi sur la situation d'Oaxaca au Mexique pour ce qui est de la chronique. Et on va peut-être même pouvoir vous diffuser une entrevue qui a été réalisée par une camarade du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du CRAC, le collectif de résistance anticapitaliste, qui a été interviewée par Radio-Canada à propos de l'abstentionnisme en campagne électorale. Donc, tout ça à l'émission La Rage du Peuple. Donc, on est en ligne avec Émilie. Salut, ça va?
Ça va bien, merci, vous?
Oui, merci. Émilie, est-ce que tu peux nous raconter, dans le fond, qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer dans la Sexta et qu'est-ce que c'est que la Sexta, s'il vous plaît?
Bien, d'abord, la Sexta, en fait, c'est le groupe ici, la Otra Campaña de Montréal. C'est un collectif là, d'individus qui est basé surtout à Montréal. Ce qui m'a amené à m'intégrer à ça, finalement, ben moi, un peu comme tout le monde, là, j'avais entendu parler des luttes des apatistes entre les années, à peu près en 98, grâce au réseau de solidarité avec le Mexique, qui était assez actif dans ce temps-là, puis qui s'était formé suite à les premières rencontres internationales ou intergalactiques, comme disaient les apatistes, qui ont été faites là, dans ces années-là. Après ça, il y a eu un petit creux dans l'Organisation internationale de soutien aux apatistes. Et puis, dernièrement, lorsque les apatistes ont fait l'appel, la sixième déclaration de la Selva Lacandona, et ils ont appelé leurs alliés à l'international à créer aussi tout ce phénomène-là de l'autre campagne, eh bien, il y a un collectif, là, il y a des gens à Montréal qui se sont rassemblés et puis qui ont formé ce groupe-là pour diffuser les principes de l'autre campagne à Montréal, puis au Québec en particulier. Moi, ce qui m'a amené à participer à tout ça, ben c'est une base affinitaire, c'est en fait des relations amicales que j'ai eues avec des membres du groupe qui m'ont amené à avoir le goût de participer, à écouter un peu par des échanges amicaux, de me rendre compte de toute la profondeur qu'il y avait dans ce que les apatistes souhaitent diffuser. C'est ça qui m'a motivé en fait à aller au Mexique à deux reprises en fait pour participer à des rencontres et puis dans un premier temps écouter vraiment qu'est-ce que les gens avaient à dire, puis ensuite de voir comment je pouvais joindre mes efforts à ceux qui sont déjà existants pour continuer à diffuser ce message-là.
Puis la Sexta, c'est quoi les activités que vous faites au Québec et le travail de solidarité, ça consiste en quoi?
Plusieurs choses. Dans un premier temps, c'était une proposition de rassembler des gens pour diffuser le message des apatistes, donc par le biais d'activités d'éducation populaire. Donc, faire intervenir des gens qui sont nés au Mexique, qui viennent lors d'activités pour raconter ce qui s'y passe là-bas, faire des petites activités sur nos propres bases pour aussi ramasser des sous pour envoyer aux prisonniers politiques, aux prisonnières politiques du Mexique. Ce volet-là, il s'exprime aussi dans tout ce qui est artistique, là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent sur un atelier de sérigraphie, puis jusqu'à présent, mais tu sais, quand ils ramassaient des sous, c'était dans l'objectif d'envoyer ça aux prisonniers, prisonnières politiques, en particulier les gens de Oaxaca, parce que les gens de l'autre, de ici la Otra, ont été très attentifs aux événements qui se sont déroulés à Oaxaca et puis à Atenco, donc les deux pas mal en 2006. Puis avaient aussi à ce moment-là organisé des actions de résistance là, devant le consulat, tu sais. Fait que c'est un peu les volets que touche là, l'autre campagne.
OK. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que ça consiste, la lutte des apatistes, dans le fond, les apatistes qui ont fait l'appel pour la Sexta Declaración de la Selva Lacandona?
à laquelle tu t'es jointe. Ce groupe-là, les Apatistes, est-ce que tu peux parler grossièrement de son histoire rapidement, s'il vous plaît?
Oui, ben moi, la perception que j'en ai, ou que ce que je peux résumer d'après ce que j'ai entendu quand je m'y suis rendue, puis que bon, j'assistais à des rencontres où les gens racontaient leur récit, là. En fait, en 83, il y a des gens qui sont allés rencontrer des paysans autochtones du Chiapas pour un peu repenser l'organisation de type guérilla, en fait, avec un appui de la population pour réussir à mettre en place un soulèvement qui a eu lieu en 94 finalement, donc une dizaine d'années plus tard. Et puis, ce qui a été particulier dans le processus de ces gens-là, c'est que ils ont vraiment écouté le mode de lutte qui est propre aux Autochtones, puis qu'est-ce que les Autochtones, en tant qu'Autochtones, avaient à dire sur leur réalité d'Autochtones aussi, tu sais, donc en touchant beaucoup ce volet-là. Alors, en 94, justement, lors de la confirmation de la signature de l'ALENA, le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange nord-américain, les Apatistes ont pris différentes municipalités dans le Chiapas, qui est l'État qui est à l'extrême sud là, du Mexique. Ben, pas mal, en tout cas. Puis, on prit les armes et puis, bon, au fil des années, on émis plusieurs communiqués expliquant leur processus puis où ils étaient rendus dans leur lutte parce qu'il y a quand même un aspect de prévision stratégique un peu de comment s'organiser. Et puis, après, des négociations foireuses avec le gouvernement qui ont terminé d'ailleurs avec le massacre d'Acteal qui était le 22 décembre 1997-96, avant que je me trompe. Les Apatistes ont compris là, que vraiment l'option que c'était à laquelle ils avaient travaillé, c'est-à-dire de signer quelque chose avec le gouvernement, c'était impossible que ça se déroule. Puis au travers de tout ça, mais ils ont en fait des appels à des rencontres internationales pour créer des réseaux de solidarité. Puis même, on pourrait dire qu'ils ont grandement contribué, si on ne dit pas qu'ils sont à l'origine de ce qu'on appelle le mouvement là, Alter anti-mondialisation. Et oui. Donc, tout au travers de leur processus, ils ont aussi créé des conseils de bon gouvernement, comme ils appellent, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé leur projet d'autonomie dans cinq caracoles ou villages qui sont entièrement autonomes, mais avec de très grandes bases d'appui tout autour de ces régions-là.
Parce qu'avant, les Apatistes, en fait, les communautés autochtones, avant de se rejoindre à l'insurrection des Apatistes, vivaient dans la précarisation constante, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'eau potable, puis il était aussi victime de racisme de la part de la population. Fait que c'est un peu ça, pourquoi ils se sont soulevés, c'est ça?
Oui, exactement. Okay. En fait, les Apatistes vivaient dans tout le système de la latifondiste, c'est-à-dire qu'il y avait des grands propriétaires terriens qui détenaient toutes les terres, puis qui soumettaient les populations autochtones locales à des situations d'esclavage, en fait.
Dans le fond, le latifundisme, c'est un propriétaire terrien sur lequel travaillent des Autochtones, puis ces Autochtones-là laissent un héritage de dette à leurs enfants, puis c'est pour ça que, dans le fond, Emiliano Zapata puis Pancho Villas ont fait une révolution en 1917 au Mexique, c'est ça?
Oui, qui a commencé en 1910, en fait. Okay. Oui, exactement. Oui, absolument.
Okay,
et puis, ça, c'était la situation des Apatistes. C'est quelque chose qui, ça fait pas longtemps, avant 94, c'est la situation qu'ils vivaient. Alors, quand il y a des rencontres, quand il y a des écrits, ben ils témoignent beaucoup de ce passé-là. Tu sais, il y a beaucoup des gens, des anciennes qui viennent raconter leur vécu parce que c'est comme la mémoire historique, finalement, qui est importante de conserver pour se rappeler de toutes ces douleurs et ces souffrances-là, puis aussi faire payer les responsables de ça, tu sais, dont les propriétaires terriens, mais également le gouvernement. Tu sais. Et puis, c'est ça qui, en fait, bon, tout ce processus-là qui a mené, il y a 3 ans, déclaration de la forêt Lacandona, qui, en, grosso modo, voyait les élections se présenter, là, le processus des élections au Mexique avec un parti... Qui a régné pendant 70 ans et puis après ça un parti d'extrême droite qui est actuellement au pouvoir et une proposition de gauche mais un peu foireuse pas mal en fait pour plusieurs personnes qui refusaient de jouer le jeu des partis puis disaient comment on propose de faire une alternative à la politique mais c'est d'abord en écoutant. Alors l'autre campagne à la base ce qui a été fait c'est de faire des grandes caravanes à grandeur du Mexique pour aller demander aux gens, mais comment vous voyez qu'on pourrait faire la politique? Comment on arriverait à s'organiser? Et, bon, il a recueilli divers témoignages et tout ça. Puis, apparemment, ils ont aussi fait des appels à l'international pour diffuser ce message-là que les gens leur disaient. Puis aussi appeler les gens, leurs alliés, finalement, qui sont dans plein de pays du monde, à dire, ben nous aussi, on croit à ça, à créer une autre politique. Et puis, enfin, un soutien aux apatistes, mais aussi, on veut faire ce travail-là localement, tu sais, d'aller voir les gens qui sont directement concernés par toutes ces politiques-là, capitalistes, tu sais, et puis ces systèmes-là d'oppression, puis aller voir un peu comment on a le goût de créer la solidarité entre nous. C'est comme ça que moi, je pourrais résumer la proposition de l'autre campagne.
OK. Ah, c'est intéressant. Puis, est-ce que, dans le fond, tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi le lien que tu pourrais faire avec ce qui s'est passé à Oaxaca, qui est la province voisine du Chiapas, qui, dans le fond, le Chiapas, c'est tellement au sud du Mexique, avant, c'était une province du Guatemala, soit dit en passant, pour culture générale de tout le monde. J'ai appris ça l'autre jour, en tout cas.
Ouais.
Fait que, dans le fond... Oaxaca, en 2006, il s'est passé quelque chose aussi. Est-ce que tu peux en parler en deux lignes ou en quelques phrases?
Oui, ce que moi j'en comprends, en fait, Oaxaca, c'est aussi une province où il y a une très grande majorité de population autochtone. OK? Ils sont dans des petites municipalités, puis ils s'organisent beaucoup entre eux sous d'autres formes d'organisation, c'est-à-dire, par exemple, les terres communales et puis toutes ces traditions-là autochtones qui persistent dans le temps, tu sais, qui durent dans le temps, en fait, puis qui sont à la base de l'organisation. Et l'organisation aussi dans les communautés se fait beaucoup avec les écoles. Tu sais, fait que les personnes qu'on nomme les professeurs ou les enseignants, enseignantes, mais c'est des gens aussi qui sont liés à la communauté puis qui sont comme à la base de l'organisation.
Okay.
En 2005, suite à diverses négociations qui ont plus ou moins évidemment fonctionné avec le gouvernement, les professeurs sont entrés dans un mouvement de grève, donc de tout un peu de dans la région de Oaxaca, puis ça s'est pas mal étendu à tout l'État. Et ils ont fait une grève, et puis ils ont, dans leurs moyens de pression, il y a l'organisation d'un campement dans la ville même de Oaxaca, dans la place centrale. Ils organisent un campement permanent qu'on appelle le planton, qui est un mode d'action direct qui est beaucoup utilisé au Mexique, et j'imagine à plein d'autres endroits, mais juste là-bas. Et après plusieurs semaines, mois là, d'un semblant de dialogue, si on peut dire, les forces de l'État y ont réprimé de façon violente le planton. Alors à ce moment-là, ça a été comme une flambée parmi tous les gens qui étaient déjà présents puis qui appuyaient les professeurs puis les enseignantes. T'sais. Alors ça l'a soulevé la ville. Les gens ont littéralement occupé la ville pendant 6 mois où ils ont occupé la ville, c'est-à-dire qu'on installe des barricades puis on tient notre région, on tient notre quartier. T'sais. Donc au travers de toutes sortes d'affrontements avec la police, en particulier la police fédérale préventive. Et puis d'autres organisations de type paramilitaire, il y a eu vraiment une longue résistance de la population et qui a terminé par la répression, l'écrasement là par les forces de l'État de Oaxaca et les forces fédérales, tu sais, qu'ils ont vraiment écrasé. Les gens à Oaxaca, ils sont sensibles là, au lieu des apatistes. Donc, évidemment, ils adhèrent à l'autre campagne des apatistes. Donc, c'est au travers de ce réseau-là aussi qui s'inspirent de ce qui sort du Chiapas pour organiser leur lutte, mais également pour proposer des façons d'action qui sont propres à ce qu'eux, ils ont vécu dans leur processus.
En 2005, je pense qu'il y avait eu aussi quelque chose comme une révolte où, à San Salvador, en Tenco. Est-ce que tu es au courant de ça?
Oui, c'était en mai 2006, en fait.
Un peu avant Oaxaca. Ça se peut-tu?
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé à Tenco. À Tenco, c'est une petite municipalité qui est proche de la ville de Mexico. Puis en fait, le gouvernement a annoncé là, autour des années 2000 qu'il était pour construire un aéroport international là-bas, et puis exproprier les terres des gens, mais en les payant de façon misérable. C'était totalement indigne. Et les gens ont fait une lutte organisée pendant plusieurs années et ont finalement gagné. Ont gagné la lutte, en fait, ont vraiment réussi à faire reculer le gouvernement. Puis ce qui s'est passé en 2006, c'est que, bon, évidemment, là, depuis peut-être un an, il y avait cette idée-là que le gouvernement était pour remettre en place là, le processus d'expropriation et tout ça. Les gens ont
pris leur machette et ont marché dans la rue?
Non, mais oui, exactement. C'est qu'en fait, on leur avait dit qu'ils avaient le droit d'aller vendre leurs fleurs à un endroit qui était l'espace public, le marché public, finalement. Et puis, à ce moment-là, c'est le gouvernement, encore avec la police fédérale préventive, qui a envoyé là, les anti-émeutes pour réprimer là, violemment les gens qui étaient venus alors qu'on leur avait dit qu'ils pourraient le faire. Tu sais. Il y avait un aspect très... il y avait un enjeu assez structurel dans le cas d'Atenco, parce que c'était au moment où les apatistes étaient dans la ville de Mexico, entraient finalement dans la ville de Mexico pour parler de l'autre campagne là, avec le sous-commandant Marcos. Alors, il y a des gens qui disent que finalement, ce que le gouvernement a fait, c'est à chercher à... foutre la merde, tu sais, parce qu'ils voulaient comme vraiment...
Provoquer le EZLN?
Provoquer un soulèvement pour justifier sa répression, tu sais.
Ouais. Mais c'est un peu compréhensible. Ouais, mais on peut voir avec un documentaire vraiment intéressant qui s'appelle Romper el Cerco que la révolte à San Salvador Atenco, mais on peut voir dans le fond les médias qui sont contrôlés par le gouvernement depuis à peu près 70 ans, comme le Parti révolutionnaire institutionnel qui est comme né d'une récupération de la révolution de Zapata. Puis finalement, ce qui se passe, c'est que ce parti politique-là, en 94, c'est pour ça que les apatistes, dans le fond, ils ont fait leur insurrection en 94, c'est parce que l'ALENA enlevait un des acquis de la communalisation des terres, dans le fond. Fait que dans le fond, c'est un super de bon documentaire. Tu l'as-tu vu?
Oui.
Ouais. Est-ce que vous en avez fait la projection avec la Sexta?
Oui, c'est exactement ça. C'est un des aspects que j'ai pas mentionné au début. Il y a énormément de films qui sont autoproduits par des activistes au Mexique, des okay. fois en solidarité, en lien avec des alliés de d'autres groupes comme Indy Media, je sais qu'ils ont beaucoup appuyé. Puis il y a beaucoup de ces films-là qui sont sous-titrés. Alors on essaie là, évidemment de les diffuser dans nos événements, mais aussi d'en laisser des copies dans les centres de diffusion alternative. Pour l'instant, un peu montréalocentriste, mais on y travaille pour amener ça dans plein d'autres endroits pour que ça se diffuse.
Mais tu vas pouvoir les amener avec toi cet hiver quand que tu vas descendre pour faire le vernissage des photos de Oaxaca à Sherbrooke?
Exactement.
Ouais, OK. C'est quoi c'est quoi ces photos-là qui vont être vernies à Sherbrooke cet hiver?
Ce sont des photos des mois de soulèvement à Oaxaca, en fait.
OK.
Ce sont des gens, des artistes locaux qui se sont improvisés artistes. En fait, c'est toutes les gens qui ont pris des photos de différentes choses, là. Puis, c'est ça qu'on voudrait aller présenter. Dans le fond, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire des liens avec plus d'endroits au Québec. C'est d'aller dans quelques villes pour diffuser le message les messages, les nombreux messages qui émanent de tous ces mouvements-là en ébullition au Mexique, puis que, qui ont certainement des choses comme aussi à transmettre sur le comment s'organiser.
Puis comme aussi l'information, entre autres, que le Mexique, c'est le deuxième pays après la Colombie dans le continent américain qui respecte le moins les droits de l'homme, puis que, par exemple, aussi le mur entre les États-Unis puis le Mexique a déjà fait plus de morts que le mur de Berlin. Ça, c'est des choses qu'on peut apprendre super pertinentes et qu'on va apprendre quand tu vas venir à Sherbrooke, Émilie. Merci d'avoir participé à notre entrevue. On va se revoir prochainement. Donc, à la prochaine.
Merci à vous. Au revoir.
Salut.